Bible, que ça devient quelque chose de normal. Et puis, je vous propose, ce matin, de vous lever pour écouter la parole de Dieu. Pour qu'on se rappelle qu'on est en train d'entendre les paroles de l'Éternel. Je lis en Ésaïe 40, versets 27 à 31. Pourquoi dis-tu Jacob ? Et pourquoi affirmes-tu, Israël, ma situation échappe à l'Éternel ? Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Et en Matthieu 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jusqu'ici, c'était la parole de Dieu. Vous pouvez reprendre place. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle est précieuse, et nous croyons que tu nous parles à travers ta révélation, et ce matin, nous voulons ouvrir nos cœurs pour t'entendre. Amen. Comment est-ce qu'on commence nos journées? En général, ça commence par un dring, 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 c'est notre natel qui est en train de sonner. Les gens les plus sages se lèvent tout de suite, les autres qui sont comme moi appuient sur répéter et 10 minutes plus tard, c'est la même chose. On se lève, on avale rapidement le déjeuner, on se fait un café, et puis on prend notre voiture pour aller jusqu'au travail. Puis au boulot, on s'installe, peut-être près de votre machine, peut-être à votre bureau, vous prenez votre tournevis ou votre crayon, et puis vous travaillez toute la journée. Le soir, vous rentrez, vous reprenez votre voiture, vous arrivez à la maison, vous préparez à manger, vous couchez les enfants, prenez une petite bière devant la télé avant d'aller au lit, et on va faire dodo. Je ne sais pas si vos journées ressemblent à celles de la plupart des gens. Puis des fois, dans nos journées, il y a des petits problèmes. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Le réveil sonne trop tard. Alors, quand le réveil sonne trop tard, on se dit « Bon, ce matin, je ne prends pas ma douche. » Et puis, on va vite au boulot. Plus de capsules pour le café. Ça vous est déjà arrivé? Vous voulez faire votre café, il n'y a plus de capsule. Alors, en chemin, vous vous arrêtez, on s'arrête, on prend un café dans le resto-route ou quelque part, ou au boulot. Ou bien, tout d'un coup, il y a des travaux sur la route. Alors là, on sort vite notre GPS, et puis il nous indique un itinéraire alternatif. Des fois, au travail, il y a quelques petits soucis. Il y a une machine qui ne fonctionne pas tout à fait comme on voudrait. Il y a notre ordinateur qui a complètement buggé. Alors là, c'est le moment de sortir le plan B. Puis quand il n'y a pas de plan B, on va demander, poser une question à un collègue, à son chef, on trouve une solution. Des fois, quand on rentre le soir, on a envie de mettre les enfants au lit, puis qu'ils dorment, puis qu'on ait une petite soirée tranquille, puis les enfants font des histoires. Alors on hausse le temps et on espère qu'ils fassent dodo. Des fois, on a envie de prendre une bière, s'asseoir sur son canapé, il n'y a plus de bière. Alors on prend un coca ou on ouvre une bouteille de rouge. Ou des fois, on n'arrive pas à dormir, alors on prend un somnifère. Et j'ai été interpellé par ce texte d'Ésaïe qui dit, mais quand on se confie en l'Éternel, on peut voler comme l'aigle. Alors qu'est-ce que ça veut dire voler comme l'aigle? Pourquoi est-ce que Ésaïe utilise cette image? Un aigle, c'est quand même majestueux, c'est quand même magnifique. Puis un aigle, on a l'impression que c'est un oiseau qui n'est jamais fatigué. Il peut voler jusqu'au plus haut sommet de la montagne. Nous, quand on va aller au plus haut sommet de la montagne, c'est fatigant. Hein, parce que aller au même endroit que l'aigle, il faut sortir la corde, il faut sortir les crampons, et puis on n'est pas sûr d'y arriver vivant. Mais l'aigle, il vole, il est au-dessus de tout, tous les problèmes, il ne se fatigue jamais, il ne s'épuise jamais, il est majestueux. Et des fois, je me dis, mais comment ça se fait que dans ma vie, ces paroles ne soient pas plus réelles? Comment ça se fait que des fois, je cours et j'ai l'impression d'être fatigué, je marche et je m'épuise, alors que la Bible dit, c'est une promesse, que ceux qui se confient en l'Éternel vont marcher et pendant leur marche, ils vont renouveler leur force. Il y a de multiples occasions dans le quotidien pour être fatigué. Il y a plein de raisons pour lesquelles on n'arrive pas à être en pleine forme. Et si on reprend ce texte d'Ésaïe 40, on peut le partager en deux parties. D'abord, il est question de Dieu, de qui est Dieu. Pourquoi dis-tu, ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu? Et des fois, quand on est fatigué, on se pose cette question, mais Seigneur, tu vois ma situation, tu vois que je suis en train de lutter, que je suis fatigué, pourquoi est-ce que tu n'interviens pas? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Et peut-être que la première chose qu'on a tendance à oublier quand on est fatigué, c'est qui est Dieu. Et Dieu est le Dieu de toute éternité. Nous l'avons chanté tout à l'heure, il a créé les cieux et la terre. Il a tout fait. Des fois, on envie l'aigle qui vole jusqu'au plus haut sommet sans aucun effort. Mais Dieu, il a créé les plus hauts sommets. Vous savez, quand on se balade en montagne et qu'on imagine que les montagnes elles ont été formées, est-ce qu'il y a des plaques tectoniques qui se sont rencontrées, en tout cas certaines, pas toutes, mais certaines, qui se sont rencontrées et la force a été tellement puissante que les masses de la Terre ont commencé à se soulever. Puis on ne parle pas de quelques centaines de kilos. On parle de millions de tonnes, enfin moi je ne sais pas combien ça pèse tout ça, mais une puissance extraordinaire a été mise en œuvre pour que les montagnes puissent être créées. Et qui est-ce qui a mis cette puissance en œuvre? C'est Dieu. Et vous savez quoi? Il n'a même pas bougé le petit doigt. Il a dit que des eaux se séparent, que la terre soit, que la lumière soit. Et par sa simple parole, il a pu mettre en mouvement toutes les puissances qu'on connaît. On a eu des pluies diluviennes hier. Mais Dieu, il est encore plus puissant. Et quand il a fait tout ça, quand il a tout créé, il n'a même pas été fatigué. Et on le voit dans la nature, on a un Dieu majestueux. Et en plus de ça, on a un Dieu qui veut être en relation avec nous, qui prend soin de nous. Et souvent, dans nos petits problèmes, on a l'impression que nos petits problèmes, pas, ils sont trop grands pour Dieu. Et là, je crois que quand ça arrive, c'est qu'on a oublié qui était Dieu. Parce que finalement, même si nos problèmes sont immenses, je ne dis pas que vos problèmes sont petits, des fois on se trouve avec des problèmes qui sont énormes, qu'on ne sait pas comment résoudre. Mais je dis nos petits problèmes, parce que pour Dieu, nos problèmes sont tout petits. Parce que lui, il est très grand. Et donc, si Dieu est très grand, il peut agir dans nos situations. Dieu, il n'est pas comme les idoles, il n'est pas comme les autres dieux. On imagine des fois que Dieu est moins puissant que ce qu'il est. On se dit, oui, il a créé la terre, mais bon, quand même, il y a peut-être d'autres explications. Ou bien, on n'a pas envie de l'ennuyer. Ah, parce que Dieu, il a quand même beaucoup de choses à s'occuper. Il faut qu'il fasse tourner la lune autour de la terre. Il y a les problèmes géopolitiques. Et puis, on n'ose pas le déranger. Mais là aussi, c'est que on a un problème dans notre conception de qui est Dieu. On ne va pas pouvoir déranger Dieu. Peut-être que les idoles, on les dérange parce qu'elles sont, elles sont pas très puissantes, parce qu'elles ont des capacités limitées. En Ésaïe 40, verset 18, on lit « À qui voulez-vous comparer Dieu ? À quelle représentation pourriez-vous le comparer ? C'est un artisan qui fond la statue, puis un orfèvre la couvre d'or et y soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas. Il sollicite les services d'un artisan assez habile pour fabriquer une sculpture sacrée qui ne soit pas branlante. Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris, ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début ? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre ? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. » Dieu, il n'est pas comme les autres dieux. Il n'est pas comme les représentations qu'on s'en fait. Il est puissant pour intervenir et il est capable de nous entendre tous en même temps. Si on se met tous à prier maintenant, il a suffisamment d'oreilles pour entendre chacune de nos prières. Des fois, on a peur de le déranger. Mais on ne va pas le déranger. Dieu, il est déjà au courant de ce qui est en train de se passer. Il sait ce que je suis en train de vivre. Il sait quelle est la solution. Quand je m'approche de lui, que ce soit pour, à mes yeux, un tout petit problème ou une énorme montagne, il est déjà là, il m'attend. Il attend juste que j'aille lui poser la question. Des fois, on se dit que on n'a pas la bonne manière de prier, que c'est parce qu'on ne sait pas comment prier que Dieu y répond pas. Mais ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas une forme. Il le dit combien de fois dans l'Ancien Testament ? Ce qui l'intéresse, ce n'est pas les sacrifices, c'est un cœur repentant. C'est un cœur qui a envie de s'approcher de lui. Or, nos prières, des fois, elles sont maladroites. Mais Dieu, il regarde à notre cœur. Et si on y va avec qui on est, avec notre sincérité, il va nous entendre. C'est les faux dieux qui ont besoin qu'on respecte une espèce de protocole fixe, qu'on ait tout un rituel pour s'approcher d'eux. Dieu, il sait qu'il est tout-puissant. Il sait qu'il a l'autorité. Ce n'est pas par nos prières qu'il devient un petit peu plus puissant. Des fois, ce qui nous empêche aussi d'être renouvelés par Dieu, c'est notre relation avec lui. Et on peut déjà avoir un petit aperçu de cela en Ésaïe. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Dieu est notre Père, et comme un Père prend soin de ses enfants, il veut prendre soin de nous. Il ne veut pas qu'on soit fatigué, il veut qu'on soit plein de force, qu'on soit renouvelé. Et quand on entretient cette relation de fils à père, de fille à père, avec Dieu, ben on sait qu'on peut s'approcher en tout temps de lui. Et il n'est pas comme nos pères terrestres qui manquent parfois de patience, qui n'ont pas toujours été bons. Lui, il est toujours prêt à nous accueillir les bras ouverts. On a cette relation qui est là. Cette relation, elle est toujours vraie. Quoi qu'on fasse, quand on a accepté Jésus-Christ, on est dans cette relation avec Dieu et on peut s'approcher de lui. Mais une question demeure. Pourquoi, si Dieu est tout-puissant, qu'il est notre Père, eh bien pourquoi on n'arrive tout de même pas à voler comme l'aigle? Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive d'être bien conscient de tout cela, et puis on est quand même empêtré dans ces problèmes. Je pense par exemple à cette situation de couple où monsieur aimerait partir et madame aimerait rester, aimerait que le couple subsiste. Puis c'est pas une situation qui date de hier, ça date d'un mois, 6 mois, une année, 10 ans. 10 ans avec les mêmes questions qui reviennent tous les jours. 10 ans où madame prie tous les jours, mais Seigneur, fais qu'il y ait un changement chez mon mari. C'est fatigant, Dieu. Dieu n'entend-il pas la prière? Que se passe-t-il? On peut penser aussi à cet adolescent en difficulté scolaire et en rupture familiale. Quel espoir a-t-il? Bien sûr, il prie, il a envie que ça aille, mais ça ne fonctionne pas. À l'école, ça ne va pas. Il est toujours en conflit avec ses profs. À la maison, ça ne va pas. La situation est difficile. Chaque jour, quand il rentre, il va dans sa chambre parce qu'il ne veut pas voir ses parents. On peut penser à la vieillesse qui arrive. Puis vous savez, quand on vieillit, il y a des petits bobos qui arrivent, qui sont là. Des petits ou des grands. Puis on prie, puis on a l'impression que ces bobos, ils nous empêchent de voler comme l'aigle. Et il y a plusieurs choses qui font obstacle à vraiment entrer dans les projets que Dieu a pour nous. Et peut-être la première chose, c'est notre péché. On a été créé, quand on a été créé, Dieu a dit que c'était bon. Que quand il a créé l'homme, il a dit, mais voici quelque chose de bon. C'était le couronnement de la création, la cerise sur le gâteau. Et il a créé Dieu, il a créé l'homme à son image. Et l'homme a choisi d'aller regarder ailleurs. Il a choisi de se détourner de Dieu. Il a choisi de rompre la relation avec Dieu. Et ça a entaché la nature humaine et toute la création dans le péché. Et en fait, notre nature est marquée par le péché. Et on a besoin d'être délivré de ce péché parce que ce péché nous pousse à faire le mal, nous pousse à faire des mauvais choix. Puis vous savez, on le fait tout à fait naturellement. Je crois qu'on n'a pas besoin de se forcer pour aller tromper sa femme. On n'a pas besoin de se forcer pour boire trop. On n'a pas besoin de se forcer pour se mettre en colère. On n'a pas besoin de se forcer pour critiquer l'autre. C'est des choses qui viennent naturellement. Et c'est incroyable quand on y pense, mais l'homme a-t-il été créé si mauvais? Non, c'est parce que l'homme a été entaché par le péché. Et maintenant, on a cette espèce de poisse qui nous colle à la peau et qui nous empêche d'être bon comme on devrait l'être. Et puis, ce péché nous donne aussi une compréhension erronée de qui est Dieu. Combien de fois, quand on regarde à Dieu, on se dit, mais pourquoi Dieu il est en train de me punir? Si je vis cette situation de couple si difficile, c'est parce que finalement, quand j'étais jeune, j'ai fait 2-3 trucs qui n'étaient pas en ordre. Et puis, si je suis en rupture scolaire, est-ce que finalement je ne l'ai pas bien mérité? Ben, je n'ai pas été un enfant obéissant. Ou quand on arrive avec des bobos dans la vieillesse, on se dit, mais pourquoi? Est-ce que finalement je ne suis pas en train de payer pour mes péchés passés, pour mon immoralité? Et on voit Dieu comme une espèce de juge, comme quelqu'un qui n'a pas compassion, comme quelqu'un qui est dur. Des fois, on a rencontré sur notre route des gens qui étaient intransigeants. qui était dur. Il y avait pas, on n'avait pas l'impression d'être en face d'un être humain, on avait l'impression d'être en face d'un robot. Puis des fois, on a la même idée avec Dieu. Dieu, il a ses principes et on est face à un mur, en fait. Puis des fois, on se dit simplement que Dieu, il a d'autres choses à penser, il a d'autres choses à faire. Et on voit que notre compréhension de Dieu, à cause de notre péché, est complètement embourbée. Et puis, ben, forcément, tout cela affecte notre relation à Dieu. Au lieu de pouvoir nous approcher de Dieu comme un père, en toutes circonstances, quand on vient de se disputer, de pouvoir aller auprès de Dieu et puis dire, mais Seigneur, tu as vu cette dispute. J'ai pas été parfait. L'autre a été méchant avec moi. Mais j'aimerais venir vers toi parce que cette situation, elle me fait mal au cœur. J'en souffre. C'est difficile pour moi. Et Dieu, il prend plaisir quand on s'approche de lui comme ça. Quand on a succombé à un péché, bien sûr, on n'aurait pas dû le faire. On est d'accord, le péché, c'est mal. Mais des fois, au lieu de se dire, mais j'ai un père en qui je peux me réfugier, on essaye de résoudre le problème par nos propres forces. Et bien sûr, ça c'est fatigant. Ou quand il y a des choses sur notre route, on n'y peut rien, elles sont là et on doit les surmonter. La semaine prochaine, il y a un test de maths. T'as beau réviser, chaque fois les tests de maths, c'est la même en couple. C'est le... Une fois, tu as eu la moyenne pendant toute ta scolarité. Et puis c'est... Puis on ne sait pas quoi faire. Ben Dieu, on peut s'approcher de lui. On peut lui dire, mais Seigneur, là j'y arrive pas, j'ai besoin que tu viennes me renouveler. Parce que c'est un passage obligé. On ne peut pas faire d'autre choix. Puis dans notre vie, il y a d'autres choses que les tests de maths qui sont là devant nous et qui nous font trébucher. Et là, on peut aller vers Dieu. Puis dire, mais Seigneur, j'ai besoin que tu me permettes de surmonter cet obstacle. Hé, Dieu, il a créé les cieux et la terre, alors les obstacles qui sont sur notre route, il sait comment il va nous permettre de les surmonter. Et on a un Père. On n'a pas quelqu'un de sadique en face de nous qui veut nous faire souffrir. On a un Père, il veut notre bien, il va... même utiliser ces choses qui étaient censées nous faire trébucher, il va les utiliser pour nous faire grandir. Plutôt que ça nous rabaisse et nous fasse tomber par terre, ça va nous élever et nous permettre d'aller un peu plus loin. Mais souvent, cette relation avec Dieu est entachée par le péché et on ne peut pas s'approcher aussi librement qu'on le souhaiterait. Et des fois, c'est étonnant parce que on a plus de facilité à aller raconter tous nos problèmes, toutes nos misères, nos difficultés, les bêtises qu'on a faites à un copain, que d'aller les raconter à Dieu. Et là, c'est parce que notre relation à Dieu a besoin d'être sanctifiée, parce que Dieu, on peut tout lui dire, il nous accueille les bras grands ouverts. Puis en fait, quand on réfléchit à ce qui nous fatigue dans notre vie, à ce qui nous empêche d'être en pleine forme, à ce qui nous empêche de voler comme l'aigle, ben c'est lié au péché. On lutte face au péché de plusieurs manières. Déjà le péché personnel, quand on n'arrive pas à être aussi bon qu'on voudrait. Et puis, quand on n'arrive pas à comprendre vraiment qui est Dieu, sa nature, qu'on n'arrive pas à cerner l'éternel, ou quand notre relation avec Dieu n'est pas au top, c'est une relation un petit peu brisée. Mais finalement, tout ça, c'est des effets du péché. Que ce soit notre propre péché, mais aussi, nous vivons dans un monde qui est entaché par le péché. Quand il y a un volcan qui explose et puis qui fait des milliers de morts, est-ce que c'est parce que ces gens étaient plus coupables, qu'ils étaient plus pécheurs que nous? Non. C'est simplement qu'on est dans un monde qui est entaché par le péché. Il y a des choses qui ne devraient pas se passer, mais qui se passent parce que la création est marquée par le péché. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et quand on lutte face au péché, il n'y a qu'une solution possible. Il n'y a qu'une seule solution, c'est Jésus-Christ. C'est d'aller au pied de la croix pour reconnaître que le péché est néfaste, pour reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin que le sang de Christ nous sanctifie. Et là, dans ce passage que je viens de relire, en Matthieu 11, les choses sont claires. Allons à Christ pour être sanctifiés et écoutons ses instructions. Jésus nous donne des conseils de sagesse, des conseils qui sont pleins de vie. Quand on va vers Jésus, on est justifié, on est accueilli par le Père, on est gracié. Et puis, il y a des choses qu'on doit continuer à travailler en nous parce que on n'est pas encore rendu parfait, tac, du jour au lendemain. On a besoin de progresser dans notre sanctification. Et là, Jésus nous montre comment faire pour vivre d'une manière qui l'honore. Et puis, on a tendance à adorer des idoles. Et Jésus dit, mais personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors si on va vers Jésus, il va faire tomber nos idoles, il va faire tomber nos fausses compréhensions de qui est Dieu. Et puis, quand on va aller vers Jésus, notre relation avec Dieu, elle va être renouvelée. Il va nous connecter au Père. Il va nous permettre de trouver le repos. Et vous savez, un père, il a envie que ses enfants soient en pleine forme. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais quand vous voyez vos enfants, vous n'avez pas envie qu'ils aient des cernes, qu'ils soient fatigués. Vous avez envie qu'ils soient bien. Et si vous pouvez faire quelque chose pour eux, vous allez le faire. Et Dieu peut faire quelque chose pour nous. Puis si vous avez des enfants, vous savez qu'il y a certaines périodes dans la vie qui sont plus fatigantes. Mais c'est que des périodes. Puis vous avez envie que ça ne dure pas. Dieu veut des enfants qui sont en pleine forme. Mais face au péché, il n'y a qu'une solution. C'est Jésus. Et si on veut avoir un fardeau qui est léger, ne pas constamment être fatigué par les choses qui nous arrivent, il y a une solution. C'est d'aller tout déposer au pied de la croix, de reconnaître que par nous-mêmes, on ne peut pas surmonter ces difficultés et que Dieu va les surmonter. Et c'est un acte de foi. Parce que quand ça ne va pas bien, on a envie de trouver des solutions. Et on croit que par nous-mêmes, on va pouvoir apporter de bonnes solutions. Mais Dieu, il a créé les cieux et la terre, et ses problèmes sont tout petits. Nos problèmes sont tout petits pour lui. Même nos montagnes, elles sont toutes petites. Alors faisons-lui confiance. Et là, ça demande un acte de foi. Allons vers Jésus, allons écouter ses commandements. Et son fardeau sera léger. Et vous savez, quand Jésus était sur la croix, Il était cloué, il y a son sang qui a coulé. Et à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, il est question du sang de Christ qui coule pour couvrir nos péchés. On peut lire en Jean 6, verset 53, Jésus leur dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Et Christ, finalement, il a donné son sang pour que nous, nous ayons la vie, pour que notre sang ne doive pas couler. Et quand on parle de fatigue, quand on parle de pas réussir à s'envoler comme l'aigle, bah, si Christ nous donne son sang, on va être renouvelé. Parce que je crois qu'on a tous conscience que dans le sang, il y a quelque chose qui est la vie. En Lévitique 17, verset 11, on dit « En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » C'est ce que Jésus est venu faire, offrir son sang en sacrifice. Et d'ailleurs, quand on est fatigué, il y a une expression qui dit « Mais il m'a sucé jusqu'à la moelle. » Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, si vous la dites des fois. La moelle, c'est là où il y a le sang qui se régénère. Ça veut bien dire ce que ça veut dire quand on a perdu du sang. On met du temps à récupérer, on est fatigué. Et quand on a un problème dans le sang, on n'arrive plus à aller de l'avant. Peut-être vous connaissez l'anémie. Quand on a un manque de fer, ça arrive souvent aux femmes, bah, elles sont fatiguées, elles n'arrivent plus à aller de l'avant. Et dans ces problèmes-là, une des solutions, c'est de faire une perfusion sanguine. Alors j'ai entendu dire, je ne suis pas médecin, mais j'ai entendu dire que des fois ça se faisait pour l'anémie, on fait une perfusion, et puis on met le sang de quelqu'un d'autre qui est en bonne santé pour que la femme qui n'arrive pas à absorber le fer ou l'homme puisse de nouveau être en forme. C'est le traitement, on va dire, le plus radical. On connaît les transfusions sanguines pour d'autres choses. Mais Jésus, il a fait la même chose. Notre sang, il était pourri par la maladie. Et Jésus, il a laissé couler son sang pour que on puisse, nous, recevoir une perfusion avec du bon sang, pour que la maladie, elle soit combattue, pour que le péché, il soit combattu, et pour qu'on soit en pleine forme. Et Jésus nous invite vraiment à lui laisser notre fardeau, à tout déposer. On parle parfois de marcher par l'esprit, marcher par la foi. Et est-ce que d'aller déposer tous nos soucis, d'aller déposer toute notre fatigue, est-ce que ce n'est pas par là que commence la marche par la foi, la marche par l'esprit? Et des fois, on a envie de le faire et on n'y croit pas. On veut déposer notre problème et on n'y arrive pas. Mais je vous invite vraiment à le déposer au pied de Jésus. Si vous n'arrivez pas à le lâcher, mais dites, mais Seigneur, j'ai besoin que tu me renouvelles par ton esprit pour que je puisse lâcher mes problèmes. Et il l'a promis, il va le faire. Et quand on lâche, ben Dieu il le prend en main et il offre des solutions. Et c'est pas souvent les solutions qu'on attendait, mais Dieu il agit. Mais pour ça, il faut avoir la foi que Dieu peut s'occuper de nos problèmes. Il faut avoir la foi que le sang de Jésus va nous renouveler. Le matin, quand le réveil il sonne, qu'est-ce qui se pousse en dehors du lit? Et moi je crois que quand on dépose tout au pied de Jésus, ben, il vient nous remplir de passion pour lui. Et quand notre réveil il sonne, on se dit mais voici une nouvelle journée que l'Éternel a faite et qui sera une source de joie, qui sera une journée bénie. Puis quand on rencontre un petit problème dans notre parcours, travaux sur la route, ben on peut dire, mais Seigneur, il y a des travaux là sur la route, toi ça ne t'a pas échappé. Montre-moi le bon chemin. Quand on a un problème au travail, au lieu de tout de suite courir, chercher de l'aide vers son chef ou vers son collègue, si on disait, mais Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides dans cette situation-là. Je ne sais pas quelle est la solution. Si le soir, quand on arrive à la maison, puis que la situation est un petit peu électrique, plutôt que d'hausser le ton pour calmer les choses, on disait, mais Seigneur, j'ai besoin que tu viennes mettre la paix dans mon foyer. Ben, je crois que ça changerait radicalement notre manière de vivre, ça changerait notre fatigue, ça changerait notre bien-être, notre joie. Et si on demandait à Dieu d'intervenir, en lui faisant confiance, il va intervenir parce qu'il a laissé son sang couler pour que nous soyons pleins de sa vie et que le péché parte hors de nos vies. Et pour cela, je vous invite vraiment à laisser toute la place à l'Esprit de Dieu qui va habiter en nous. Parce que Dieu veut nous remplir d'une passion pour lui, pas juste d'un truc intellectuel, pas juste d'un truc actif, pas juste d'un rituel. Il veut qu'on soit des gens passionnés pour lui, des gens qui volent comme l'aigle majestueux, des gens qui ne se laissent pas atteindre par les soucis. Parce que Dieu va répondre à l'appel. Dieu va régler nos soucis. Dieu va nous porter et renouveler notre force pendant notre marche. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons de ce que tu es notre Père. Nous te louons de ce que tu veux révéler les choses de ton royaume aux enfants. Et Seigneur, nous voulons venir vers toi comme des petits-enfants qui n'avons rien compris à la vie, Seigneur. Comme des petits-enfants qui sont perdus, Seigneur, comme des petits-enfants qui ont envie de passer un bon moment avec leurs parents. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu nous accueilles les bras grands ouverts, nous avons besoin que tu nous montres qui tu es, que tu nous montres comment nous devons vivre, nous avons besoin que tu nous remplisses de ton esprit. Seigneur, ce matin, nous voulons tout déposer à tes pieds. Et je vous invite pendant que je suis en train de prier à haute voix, priez dans vos cœurs et peut-être qu'il y a l'un ou l'autre d'entre nous qui a une situation plus particulière à déposer. Ben, on va la déposer ensemble. Seigneur, tu vois, on est rassemblés ce matin et on veut chacun te déposer nos situations particulières. Un problème de couple, une difficulté avec un enfant, un problème au travail, une situation financière difficile, un problème de voiture, un problème de santé. Seigneur, tu as créé les cieux et la terre et ça, c'est des petits grains de sable pour toi. Nous croyons que tu vas intervenir dans nos situations. Nous te déposons ça à tes pieds. Seigneur, remplis-nous de ta force, remplis-nous de ta vigueur.